Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bonjour à vous pour cette nouvelle capsule L'amour vaincra. Je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, prêtre religieux catholique, et je vous propose de commencer d'abord en faisant un peu de philo, en parlant des preuves de l'existence de Dieu, puis de ce que c'est qu'un cardinal et des différences entre les Bibles chrétiennes, avant de passer après à l'évangile du jour. Nous commençons par un peu de philosophie. Dieu existe-t-il? Ce qu'on appelle les fameuses preuves de l'existence de Dieu. Il y en a plein de toutes sortes. L'argument cosmologique, d'où vient l'univers? L'argument du fine-tuning, comment se fait-il que l'univers soit paramétré pour faire éclore la vie? Enfin bref, il y en a de toutes sortes. C'était un sujet qui m'avait passionné dans mes jeunes années de formation parce que je trouvais ça très beau de rigueur et de culture scientifique. Mais avec les années de pratique, j'en suis venu aussi à une autre conclusion. Ces fameuses preuves de l'existence de Dieu réussissent rarement à convaincre les gens. Alors que faut-il en penser ? La conclusion à laquelle moi je suis parvenu à titre personnel était de me dire que ces fameuses preuves de l'existence de Dieu servaient moins à prouver l'existence de Dieu qu'à montrer les enjeux ultimes qu'il y avait derrière l'existence de Dieu. Et à chaque fois dans ces arguments, c'était toujours la même chose qui revenait, la notion de mystère, qui est une sorte de mix entre à la fois quelque chose d'inconnu et quelque chose de rationnel. Et que ce que ces arguments vous disaient en fait, c'est que si vous voulez vraiment donner une place au mystère, le mystère de la vie, de l'univers, de l'existence, eh bien là, la raison vous amène à vous dire qu'il y a un mystère ultime qui existe et qui fonde tout le reste. On les appelle parfois les princes de l'Église. Ils sont habillés avec des vêtements rouges, en tout cas les vêtements officiels, notamment une calotte rouge sur la tête, une soutane rouge, et ça symbolise leur appartenance à un rang élevé dans la hiérarchie et l'Église catholique. On les appelle les cardinaux, du latin cardo, principal, ce qui donne la route à suivre. Les cardinaux sont choisis et nommés par le pape, ou plus exactement, on dit qu'ils sont créés par le pape. Et ils sont comme les princes de l'Église, les membres du clergé catholique les plus éminents et les plus respectés. Ce sont eux qui votent pour le nouveau pape. Ils forment ce qu'on appelle le collège des cardinaux, qui est chargé de conseiller le pape de participer à la gouvernance de l'Église universelle. Dans l'histoire, il y a eu des cardinaux célèbres comme Mazarin ou encore Richelieu. Connaître aujourd'hui le nom des cardinaux, c'est peut-être connaître le nom du prochain pape. Aujourd'hui, nous parlons de la Bible, le livre sacré des chrétiens. Mais savez-vous qu'il existe des différences entre la Bible orthodoxe, la Bible catholique et la Bible protestante? On ne retrouve pas exactement la même chose à l'intérieur. Par exemple, chez les catholiques, il y a 150 psaumes. Chez les orthodoxes, il y en a 151. Chez les catholiques, il y a le premier livre des Maccabées et le deuxième livre des Maccabées. Chez les orthodoxes, il y a un troisième et quatrième livre des Maccabées. Et chez les protestants, il n'y en a aucun. Donc il y a quelques petites différences. Il n'y a pas les mêmes livres à l'intérieur de la Bible. On estime qu'entre les catholiques et les protestants, on estime que entre les catholiques d'un côté et les orthodoxes de l'autre, il n'y a pas de différence significative. Mais en revanche, entre les protestants d'un côté et les catholiques orthodoxes de l'autre, cela amène des différences significatives. Nous passons maintenant à l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, vous voici déjà purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Ce qui fait la gloire de mon père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. À quoi Jésus vous compare ? À un arbre, et à un arbre fruitier. Alors, moi je sais pas exactement l'arbre que vous préférez, si jamais vous aimez bien les bananes, un bananier, si jamais vous aimez bien les figues, un figuier, mais en tout cas, choisissez un fruit que vous aimez, parce que c'est de ça dont nous allons parler, et dites-vous que vous êtes l'arbre qui allait le porter. Donc, je m'adresse à ceux qui parmi vous se comparent à des figuiers, d'autres à des pommiers, et pour moi ce sera... Bah tiens, la vigne, j'ose pas dire parce que j'aime bien l'alcool, mais je ne vais pas bouder sur l'image que Jésus me propose. Donc aujourd'hui, parlons des raisins, des pommes, des figues et des bananes, de ces fruits qui font la gloire de Dieu et que vous êtes amenés à porter. Alors déjà, première erreur que nous allons éviter de faire ensemble, il ne s'agit pas d'un arbre extérieur d'abord. C'est-à-dire que les fruits, les bananes, les figues, les poires que Jésus vous demande de porter, ce ne sont pas d'abord les belles œuvres que vous faites pour les autres. C'est important, on est d'accord, hein. Mais vous savez bien que parfois même les belles œuvres que les gens font pour les autres ne sont pas toujours si belles et si saines que ça. Donc, ça veut dire que le premier arbre, le premier fruit que Jésus vous demande de porter, c'est un arbre intérieur et c'est un fruit intérieur. C'est ce qu'on appelle les vertus. La gloire de Dieu, c'est que votre âme soit embellie de la beauté, de la vertu. Bon, mais je ne suis pas encore en train de parler de fruits, là. Alors, où viennent les fruits ? Eh bien, parce que vous voyez, dans cet arbre des vertus, qui est un arbre intérieur spirituel qui est en vous, qui est en fait l'image de votre âme, c'est de votre âme dont je suis en train de parler, qui est semblable à un arbre. Eh bien, on distingue dans la vertu, dans les branches de cet arbre spirituel de votre âme, on distingue au bout de chacune de ces branches qui sont les vertus, il y a d'abord le bourgeon, puis la fleur, et enfin le fruit. Ça y est, nous y sommes, à nos figues, nos poires et nos bananes. Mais d'abord le bourgeon. Vous voyez, le bourgeon, c'est quand on fait un effort. La vertu est encore un peu invisible. C'est le tout début, on vient de se convertir. Et puis ensuite, il y a la fleur. La fleur est belle. Elle attire Dieu, elle attire les autres. Elle répand à un bon parfum. C'est tout le but des fleurs, que par leur beauté d'attirer les autres. Ça, c'est le deuxième stade de la vertu. Mais il y en a encore un troisième. Après le bourgeon, après la fleur, vient le fruit. Et le fruit, cette fois-ci, c'est la vertu parvenue à la pleine maturité que l'on croque à pleines dents. Parce que non seulement elle est belle, mais elle est bonne. Et cette fois-ci, on la goûte, c'est la saveur. Alors, je reviens à ma phrase. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Eh bien ça veut dire que ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que vous puissiez savourer sa présence. Ça, c'est le fruit. Jouir de la présence de Dieu, parce que quand Dieu va répandre son amour en vous, c'est quelque chose qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable de goûter. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que vous jouissiez de lui. Et ça s'appelle en fait la vie éternelle. Et votre arbre intérieur, votre âme est faite pour ça en portant du fruit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez progresser dans la voie de Dieu, vous allez de plus en plus savourer sa présence et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça ce qu'on appelle le fruit. C'est la saveur spirituelle. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à vous faire comprendre ce que je voudrais dire. C'est que le fruit spirituel dont je vous parle, l'arbre intérieur, votre âme, c'est quelque chose qui va être suave, qui va vous donner de la joie. Bon, allons-y, cette fois-ci je tire l'artillerie lourde pour vous faire vraiment comprendre ce qui fait la gloire de Dieu et les fruits intérieurs, comment jouir de la présence de Dieu. Ça nous prépare à la Pentecôte. Eh bien voilà, il y en a 9. Les 9 fruits de l'Esprit-Saint. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est-à-dire 9 manières de savourer Dieu, de goûter sa présence. Et voyez comment est-ce qu'à chaque fois il y a une sorte de parfum, il y a une sorte de goût, il y a une sorte de saveur, il y a une joie dans la vie spirituelle. Et c'est ça la gloire de Dieu. L'amour, la joie, la paix. Ça, vous voyez, c'est les fruits de notre amour envers Dieu. Le premier fruit, c'est l'amour qui dilate le cœur. Le deuxième fruit, c'est la joie, c'est-à-dire posséder enfin l'objet désiré. C'est le désir parvenu à son terme et qui se repose dans l'objet qu'il avait convoité, la joie. Et parfois, on ressent ça dans la vie de prière. La paix. La paix, c'est l'homme réconcilié avec lui-même qu'il fait qu'il n'est plus toujours en train de débattre de ce qu'il pense, de ce qu'il va dire ou quoi que ce soit. C'est qu'il a tout simplement trouvé la paix parce qu'il a trouvé le but de sa vie. Et puis ensuite, vous avez les fruits qui concernent notre relation aux autres. La patience, la bonté, la bienveillance. Et c'est vrai que les hommes bons sont heureux, que les hommes patients sont heureux, que les hommes qui cherchent à faire le bien sont heureux et que, étant parvenu à la pleine maturité, l'amour du prochain leur fait déjà jouir de la vie éternelle. Vous entendez que j'utilise à dessein ce mot de jouir, qui est le mot des théologiens scolastiques, c'est-à-dire vraiment éprouver la joie de la vertu, éprouver la douceur de Dieu, dilater son cœur à l'infini de la charité. Enfin bref, c'est la vie éternelle, quoi. Et puis ensuite, vous avez trois autres, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, qui cette fois-ci sont les fruits de l'amour de nous-mêmes. La foi, parce que nous croyons que Dieu nous aime. C'est peut-être bête, mais ça commence par là. La douceur, parce que grâce à Dieu, nous pouvons enfin pleinement nous posséder nous-mêmes et nous possédant nous-mêmes, nous soustraire aux tempêtes du monde. Et puis la maîtrise de soi, c'est-à-dire éprouver les bonnes émotions au bon moment. Enfin bref, je vous le redis, ce qui fait la gloire de votre Père, c'est que vous portiez ces fruits-là. Donc allez-y. Et voilà, c'était la capsule L'Amour Vaincra avec le frère Paul Adrien. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous quitter en vous souhaitant à tous un agréable dimanche.
L'Amour Vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et sur le site internet et le réseau Discord en tapant L'Amour Vaincra.